De retour en studio, une semaine après la vente des Alouettes à une famille de Toronto sans racine avec le Québec, on apprenait que les commandes de l'équipe au poste de président et directeur général des Alouettes étaient confiées à deux personnes hyper connues à Montréal, hyper impliquées dans le milieu. Et on accueille en studio ce duo dynamique des Alouettes, le président Mario Cecchini et le directeur général Danny Macioccia. Bienvenue en studio, messieurs.
Merci, bonsoir Patrick.
D'abord, on va parler de votre lien avec les Alouettes de Montréal, deux amateurs de football. Je pense que ça remonte dans chacun de vos cas à votre enfance. Danny, les premiers souvenirs des Alouettes, c'est quoi?
La Coupe Grey de 77. Okay. Au stade olympique contre les Eskimos d'Edmonton. Puis il y avait à peu près une 65 000 personnes. Puis j'étais là avec mon père, j'avais 10 ans. J'étais un grand partisan des Alouettes, alors j'ai eu la chance de regarder Peter Dellariva, puis Wally Buono, mm-hmm. puis Glenn Weir, Dickie Harris, des excellents joueurs qui la plupart se trouvent dans l'attente de renommée. Puis c'était bizarre parce que je regardais aussi les Eskimos d'Edmonton, puis un de mes grands amis aujourd'hui, c'est Dan Kepley, qui jouait pour les Eskimos d'Edmonton, qui aussi se trouve dans le trempe de renommée.
Vous avez coaché à Edmonton.
A coaché ensemble pendant 8 ans. Alors, puis aujourd'hui, il fait partie de... C'est une extension de ma famille, Dan Kepley. Puis ça a commencé en 77, puis j'ai tombé en amour. Je voulais jouer, puis j'ai eu la chance de jouer un petit peu au secondaire. Puis après, j'ai embarqué dans le coaching. Puis quelques années plus tard, j'ai eu la chance de faire du bénévolat avec les Alouettes de Montréal. Puis c'est parti de ce point-là.
Puis on va revenir à ce point-là, à cet aspect-là fascinant de votre histoire, Danny Macioccia, le bénévolat qui vous a fait entrer chez les Alouettes. Mais avant, Mario Cecchini, enfant, là, vous preniez l'autobus pour aller voir les matchs des Alouettes.
Absolument. Les billets à 4 $ en haut, dès que j'ai pu avoir l'âge, assez tôt, parce que c'était une autre époque. Hein? Aujourd'hui, j'ai jamais fait ça avec mes deux filles.
Il y avait moins de parents hélicoptères à l'époque.
Il y avait moins de parents hélicoptères. Le stade olympique nous attirait beaucoup aussi. Alors, c'était le fun. Il y avait de l'ambiance. C'était une époque où on avait couramment 60, 65 000. Mm-hmm. Tu sais, un match contre Ottawa au mois de juillet, il y avait 67 000 personnes dans le stade olympique. C'était électrisant.
Et ça, c'est quand vous étiez petit. Et là, vous avez grandi. Mario Cecchini, vous n'avez pas fait carrière dans le football.
Non.
Danny Macioccia l'a fait. Et Danny, on va parler de vous une seconde, parce que votre parcours est vraiment intéressant. Vous étiez entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, poste prestigieux. Vous avez transformé ce programme-là. Prestigieux et utile parce que, dans le fond, vous étiez le coach de jeunes adultes, des citoyens en devenir. Vous étiez vénéré dans cette équipe-là. Pourquoi quitter tout ça pour la pression du sport professionnel?
Parce que c'est un rêve que j'ai de gagner une Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal. J'étais vraiment chanceux de ma carrière de foot que j'étais capable d'aller chercher un championnat à l'Université de Montréal. J'étais capable d'aller chercher deux bagues avec les Eskimos d'Edmonton, quelques championnats en Europe avec l'équipe Canada, l'équipe du Québec. Mais malheureusement, en 2000, j'étais l'entraîneur des porteurs ici avec les Alouettes de Montréal. Puis on avait joué en Coupe Grey à Calgary contre les Lions de BC. Puis on a perdu ce match-là. Puis c'est quelque chose qui me travaille tellement que vous pouvez même pas imaginer. Alors pour moi, c'était tellement important à 52 ans. Puis je pense que le timing est idéal d'embarquer sur ce défi-là puis d'aller chercher ce fameux championnat. Mm. Puis en espérant que je peux terminer ma carrière dans le football avec une équipe qui est tatouée sur mon corps.
On vous souhaite de terminer votre carrière à Montréal, Danny Macioccia, mais parlons du début de votre association avec les Alouettes de Montréal. C'est pas banal. Vous avez commencé comme entraîneur et bénévole parce que vous n'étiez pas payé.
Oui, alors c'était en 96 puis 97. J'avais une entente avec ma femme que j'étais capable de convaincre de me marier, de me donner 2 ans. Puis que la troisième année, je retournais avec un contrat professionnel. Puis je travaillais des heures de 14-16 heures par jour. J'étais aussi l'entraîneur des porteurs en 97, des Pringles. J'ai coaché Pringles, puis Michael Souls à l'époque. Puis on était mariés. Puis c'était elle qui, pendant qu'elle était étudiante à McGill, qui travaillait dans une pâtisserie qui payait tous nos dépenses qu'on avait concernant notre appart, puis une petite voiture qu'on avait. Puis à la troisième année, en 98, Jim Pop, à l'époque le DG des Alouettes de Montréal, m'a offert un contrat de 27 000 $ pour être l'entraîneur des porteurs. Puis j'étais tellement content, tellement fier. J'arrive chez nous, je présente ça à ma femme, puis puis elle me dit, là, si j'ai bien compris, on t'a travaillé comme un fou, un malade, t'as fait des sacrifices pendant 2 ans, puis tu me reviens avec un contrat de 27 000 en 98. Mais là, j'ai dit, écoute, là, on a rentré par la grande porte, là, on va rester pendant une période de temps, fais-moi confiance.
Et Philippe Quentin a fait une chronique fascinante là-dessus dans la presse. Philippe Quentin, notre collaborateur ici au Québec maintenant, Danny Maciocia, et ce que vous lui avez confié, c'est que quand vous étiez bénévole, bon, vous saviez que vous aviez un plan, c'était une façon d'entrer dans le football professionnel. Ce qui était dur, c'était jeudi ou 2 semaines, quand tout le monde dans le bureau avait sa paye, mais pas
c'était,
vous.
C'était fou, puis il n'y avait pas de dépôt direct. Alors, il y avait une
femme quelqu'un venait porter
qui venait du centre-ville, qui venait au stade olympique, qui amenait des chèques, des enveloppes. Puis on se trouvait dans des réunions de staff avec, avec l'entraîneur en chef. À l'époque, c'était Bob Price puis Dave Ritchie, puis... Quand il arrivait à moi, elle me disait toujours « Ah, toi, tu fais du bénévolat. » Puis il passait et continuait au prochain.
Mais je comprends que vous aviez un plan, mais ça devait faire mal.
Oh, absolument. Absolument, parce que... à la deuxième année en particulier, parce que je sentais que j'étais prêt. J'avais besoin que quelqu'un me donne une opportunité de me donner un contrat puis de me confier un poste, une unité. Puis finalement, j'ai eu le poste comme entraîneur, mais je n'étais pas numéré.
Et là, quand vous avez négocié avec Mario Cecchini pour devenir le directeur général des Alouettes, rassurez-moi, c'était plus que 27 000 $, puis c'était surtout pas bénévole.
C'était un petit peu plus de 27 000 $, puis c'était pas un poste de bénévolat.
Définitivement pas bénévole.
Mario Cecchini, vous, votre travail, ça va être de mettre, de donner les ressources à Danny Maciocia pour qu'il aille chercher les bons joueurs et aussi de vous assurer que l'équipe soit en bonne santé financière. Ça fait combien de temps que les Alouettes ne sont pas rentables?
Je pourrais pas répondre de façon très concrète parce que j'ai pas vu des chiffres depuis.
Est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'ils étaient rentables l'année passée?
Non. Okay. Ça, M. Stern l'a mentionné aussi, ça a déjà été dit. Les dernières années ont été très difficiles.
C'est quoi le plan pour faire des Alouettes une organisation qui est financièrement pas dans le rouge? C'est important dans le sport professionnel pour s'assurer que l'équipe reste à Montréal aussi.
On a commencé à le mentionner dans la conférence de presse. D'abord, tout ce qui est. C'est du sport professionnel, ça commence sur le terrain. On faisait beaucoup de blagues la semaine passée, on disait, parce que en 94, quand les Expos étaient champions, qui n'ont jamais pu se rendre à la Série mondiale à cause de la grève, on n'entendait pas trop parler que le stade était loin ou c'était compliqué ou le stationnement. Au début, quand U2 a usurpé le stade olympique, les Alouettes ont été obligés de jouer par accident, débarque au stade McGill. On se rappelle, là, tout le monde parlait du romantisme de ce stade-là, puis de voir la ville un soir de juillet, c'est extraordinaire. Alors, c'est beaucoup lié à la performance. Alors oui, effectivement, le premier point important, c'est que Danny ait ce qu'il faut pour bâtir une équipe avec Coach Jones, puis s'assurer que, sur le terrain, c'est excitant. Puis ça, c'est la première promesse qu'on se fait tous, parce que ça guide le reste. Après ça, c'est sûr que l'expérience des fans, je pense que les revenus, sur l'enthousiasme de l'année passée, on va être capable cette année de connaître des progressions de revenus, je dirais, naturelles, avec la vente de billets, les billets de saison. Déjà, depuis une semaine, les gens de billetterie me disaient que deux fois cette semaine, je suis monté en haut pour leur parler un peu. J'ai pas pu parler à personne parce que tout le monde était au téléphone en même temps. Alors, ça fait partie du plan. L'implication dans la communauté, pour nous, va être très, très importante.
Sentez-vous, Mario Cecchini, que dans les dernières saisons, il y a quelque chose qui s'est brisé entre le noyau de fans et les Alouettes?
Oui, bien, on me le dit, M. Lagacé, on me le dit. Les gens qui sont plus proches, briser, c'est peut-être un grand terme, mais les gens venaient être déçus. Puis c'est sûr qu'un propriétaire qui publiquement se demande s'il va rester, s'il va partir. On entend des rumeurs. Il y a rien pour les calmer. C'était difficile. Puis je veux surtout être très bien compris. Les employés, les gens qui étaient là à l'époque, sont pas responsables de ça. Ils font preuve d'une résilience extraordinaire. Mais veux pas, quand le futur est incertain. Mais c'est plus difficile.
Je vais te donner un exemple de lien brisé. Moi, là, je connais quelqu'un qui a eu des billets de saison pendant plusieurs années, presque 20 ans. Et lui, il me disait, c'est-tu quoi, il y a quelque chose qui a cassé chez moi quand moi, j'achetais mes billets de saison, 4 billets de saison. Et là, à un moment donné, les Alouettes me disent, bon, si vous voulez des billets de saison, il faut acheter un billet pour les éliminatoires, alors que le club n'est pas encore qualifié, c'est le début de la saison. Il dit, moi, j'ai trouvé ça insultant. Il dit, on me demande de financer un billet alors que c'est même pas sûr. Après ça, si vous faites pas les séries, ben le billet est reporté. Cette politique-là, est-ce que ça va continuer à avoir cours?
Écoutez, je suis pas vraiment. Je rencontre les gens de la billetterie de la semaine prochaine au niveau de tous ces détails-là, mais c'est toutes ces choses-là qu'on va regarder. Aujourd'hui, on n'a pas de, il y a rien qui est dans le béton. Ça, c'est la première chose. Fait que c'est tout. Quand on parle de se concentrer sur les fans, c'est ce genre de choses-là, le genre de questions que moi, je vais poser pour m'assurer, effectivement, que si le fan est heureux, c'est là que ça commence. Si le fan est heureux...
S'il y a du fun.
S'il y a du fun, il n'aura pas de problème. Et ce genre de choses-là, pour moi, si les gens me disent que c'est un enjeu extraordinaire, on va tout... pas un enjeu, mais un irritant. C'est sûr qu'on va retirer ça. On est là pour rendre la vie des gens simple, facile, puis que l'expérience fan, là, sans prendre une expression usée, mais c'est vrai qu'on va la travailler encore plus. On a fait du travail l'année passée. Je pense de façon générale, ce qu'on m'a rapporté beaucoup dans les commentaires, c'est qu'on a progressé. Puis on va continuer à progresser en 2020, assurément.
OK, Danny Maciocia, là, vous réalisez votre rêve. Vous êtes DG de votre équipe, l'équipe de votre ville d'origine, la première équipe que vous avez encouragée. C'est quoi les défis qui vous attendent là, dans les prochaines semaines?
On a des joueurs autonomes. Il faut prendre des décisions qui on va signer puis qui on peut pas se permettre de signer. On a aussi le repêchage qui s'en vient dans les prochains mois. Ça, c'est quelque chose que pour nous est très important parce que je parle toujours, tu fais pour avoir une équipe gagnante, que ce soit à Montréal ou ailleurs dans la Ligue canadienne, tu as besoin d'une carrière élite, tu as besoin d'une bonne ligne à l'attaque, puis ton contenu canadien doit être parmi les meilleurs dans le circuit. Alors, je pense qu'on a un très bon carrière. On travaille sur d'avoir une ligne d'attaque élite, puis on va travailler très fort pour établir le meilleur contenu canadien qu'on peut aller chercher. Puis l'autre chose qui est très importante, c'est d'avoir une présence de l'autre côté de la frontière. Justement, je rencontre du monde la semaine prochaine pour mettre du monde en place aux États-Unis pour identifier des joueurs américains, parce que comme on est tous au courant, la moitié de notre roster est composée par des joueurs américains. Oui. Alors, on a du travail. Il faut gérer le plafond salarial. C'est loin d'être une situation idéale, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, mais je pense que c'est faisable et je suis convaincu qu'on va avoir une équipe compétitive en 2020.
Vous parlez de contenu canadien. Parlez-moi de contenu québécois. On sait que le football québécois a pris du tonus dans les 10-15 dernières années. Est-ce que votre expérience dans le football universitaire, ça va vous aider peut-être à faire des bons choix de recrutement?
Absolument. Absolument. Quand on regarde à travers du pays, il y a deux programmes au Québec qui sont parmi les top 3 ou 4 au pays. Puis il y avait une période de 3 ans qu'on était 1 et 2, que ce soit l'Université de Montréal puis Laval ou Laval puis l'Université de Montréal. Alors, on réalise de plus en plus qu'il y a des excellents joueurs québécois qui jouent partout au Canada. La clé pour nous, c'est de garder, on ne peut pas les tout savoir, on est conscient de tout ça, mais à talent égal, de les garder chez nous. Parce que ça va ramener cette fierté que je pense que qu'on a besoin. Ça peut faire toute la différence au monde, que ce soit sur le terrain, puis aussi à l'extérieur du terrain.
Très bien. On est avec Mario Cecchini et Danny Maciocia des Alouettes de Montréal, nouvellement embauchés au poste de président et directeur général. On vous garde, messieurs, pour la pause et on va finir l'émission avec vous. Il est 18h17. 18h20 de retour en studio avec le nouveau duo de dirigeants des Alouettes de Montréal. Vous avez entendu parler de ça cette semaine, la nomination au poste de président de Mario Cecchini et de directeur général de Danny Maciocia. Danny, je veux revenir à l'histoire de vie fantastique. T'es devenu un homme de football. On est passé au-dessus, je m'excuse. Vous êtes devenu un homme de football hyper respecté partout au Canada, mais on l'a mentionné tantôt, des débuts extrêmement modestes. Vous étiez bénévole chez les Alouettes, vous avez après ça eu un contrat très, très modeste. Là, vous devenez le patron des opérations football. Quand vous êtes allé voir votre épouse, là, Philippe Cantet l'a rencontré dans sa chronique, là vous avez le contrat là, que Mario Cecchini vous a soumis. Là, vous allez voir votre épouse qui vous a soutenu, comme elle vous a soutenu parce que vous l'avez raconté. C'est elle qui payait les billes pendant ce temps-là. Racontez-nous comment ça se passe quand vous allez voir votre épouse avec le fameux contrat, le contrat de votre vie.
Il faut dire que puis Mario n'est pas tout à fait au courant. Il m'avait envoyé un texto en disant « Ça va-tu avec le contrat? Est-ce que tu nous l'envoies demain, ce soir? » Puis moi, je l'avais en main. Mais je me posais
lui,
encore...
Il voulait vous attacher, là.
Et moi, je voulais dormir là-dessus pour une autre 24 heures. Puis c'était vendredi matin, je me lève, je m'en vais directement au bureau de ma femme. Je m'assois une dernière fois. Je mets le contrat sur son bureau. J'ai dit... Si on le signe, là, on embarque, tout le monde embarque. Tout le monde, les enfants, toi, tout le monde. Puis est-ce qu'on est prêt d'embarquer puis de faire les sacrifices requis pour vivre une expérience incroyable? Parce que pour moi, c'est très important. Puis j'en parle, je fais référence à ma famille, mais je fais référence à tous les Montréalais puis tous les Québécois. Quand on embarque sur ce terrain-là pour un match d'ouverture, tout le monde va embarquer avec nous. Mm. Puis moi, je voulais être sûr... Elle qui a fait la plupart des sacrifices pendant les 23 dernières années qu'on est mariés, qu'elle était prête d'embarquer avec moi. Alors, elle m'a dit, signe le contrat. Puis je l'ai signé, puis je l'ai renvoyé directement à Mario. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on s'est regardé, puis je lui ai dit, tu réalises-tu qu'est-ce qu'on vient juste faire? Puis je te remercie pour tout ce que tu as fait pendant les 23 prochaines dernières années. Puis on va vivre une expérience incroyable ensemble.
Mmh. Pas banal.
Non. Et non. Pour l'anecdote, il a signé le matin, mais le scanner ne marchait pas.
Oui, c'est ça.
Fait que nous autres, on a attendu jusqu'à l'après-midi avant de le recevoir.
Étiez-vous nerveux?
On avait hâte.
Parce que c'est pas la
vraiment.
Première fois qu'il y a un rendez-vous raté.
Non,
en fait,
effectivement.
Il y a eu un rendez-vous raté dans le passé entre Danny et les Alouettes.
Oui, je n'étais pas nerveux, mais c'est comme n'importe quoi. Tu t'assures que quand tu te parles, on a soupé mercredi, on s'était parlé avant, mais vraiment, on a concrétisé ça là. Mais là, après ça, le papier, il faut s'assurer qu'on a tous compris la même chose. Là, tu lis le papier, puis là, tu rajoutes ce qui est légal, évidemment.
Et des zéros.
Fait que, il est plus bénévole. Mais essentiellement, tu as quand même toujours hâte. On a tous vécu, moi, très tôt dans ma carrière, je me rappelle, on avait annoncé le transfert d'un directeur des programmes, la grosse affaire. Puis le lendemain, tu es obligé de dédire ça. Ah, ça m'est resté. On n'annonce jamais rien tant que
c'est pas signé. Tant que c'est pas signé, c'est pas fait.
Vraiment.
Mais tu sais, Danny, je vais être clair. Là, moi, je me moque pas du tout du fait que vous ayez été bénévole. Au contraire, c'est admirable. Parce que ce que ça dit, c'est votre passion pour ce domaine-là dans lequel vous vouliez percer. Et vous avez fait, à cette époque-là, un sacrifice ultime. Vous avez dit, moi, je vais être bénévole. Mmh. Comme si je coachais l'équipe du coin. Je vais aller coacher dans la Ligue canadienne de football. Je serai pas payé. Je vais leur montrer... que je mérite d'être payé. Moi, je trouve que c'est une histoire incroyable.
Oui, puis si tu peux me le permettre, à 52 ans, avec une sécurité que j'avais à l'Université de Montréal, d'embarquer dans ce projet-là, pour moi, c'était très important de savoir qui était le président. Puis je me sentais tellement à l'aise avec Mario que c'est sûr qu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Il m'inspire beaucoup, puis moi, je me suis dit, puis j'en ai parlé à ma femme, je pense que pas seulement que je peux travailler avec lui, mais je suis convaincu qu'on peut faire des belles choses, pas seulement sur le terrain, mais même à l'extérieur du terrain.
Est-ce que vous vous connaissiez avant?
On s'est connus, j'ai mentionné à la conférence de presse, on s'est connus au courant de l'été, au courant de cet été, mais c'est tout vrai, là. On a vraiment connecté rapidement. On a des valeurs qui se ressemblent énormément. Puis on est resté en contact. Je suivais tous les matchs de Danny. Je textais. Puis on disait, regarde, le cœur a brisé dans le dernier match, évidemment.
La défaite, oui.
Mais ça reste un parcours extraordinaire. C'est quand même une autre Coupe Dunsmore.
Pourquoi Mario Cecchini, c'est Danny Maciocia que vous vouliez?
D'abord, pour beaucoup de ces raisons-là qu'on vient de parler, éthique de travail extraordinaire, connaissance du football universitaire québécois, on ne peut pas demander mieux, là. On peut vraiment pas demander mieux. Et c'est une priorité pour nous. On va faire le maximum pour que les joueurs québécois puissent se développer. Tantôt, je parlais d'une troisième priorité pour nous qui est le... On parle de relancer l'équipe, ça passe toujours par la proximité avec la communauté puis tout ce qu'on fait. Danny, on marche dans la rue avec Danny, on dîne avec Danny, on se fait interrompre, là, puis les gens ont le goût de parler, puis ont le goût de jaser avec lui. Il y a une proximité, c'est accessible. C'est, les Alouettes, pour moi, c'est vraiment le côté accessible. C'est ça qui va rendre l'expérience encore plus forte.
Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. C'est le fun quand la ville se met à vibrer à l'unisson avec ses équipes sportives, dont les Alouettes. Fait que bonne chance, Danny Maciocia et Mario Cecchini. Merci d'être venu nous voir en studio. C'est tout pour le Québec maintenant. Vous le savez, Canadiens jouent ce soir à Philadelphie. Et nos amis Martin McGuire et Danny Dubé vous attendent de l'autre côté de la pause pour la retransmission de ce match. C'était Patrick Lagacé pour le Québec maintenant. Merci.